La figurine égyptienne par Valentin Williams. Marc Weber n'est pas de ces hommes qui vont mes préférences. Pompeux dans ses façons, l'air agressif, la voix stridente, il amuse de tout ce que nous appartenons au même club pour m'imposer sa compagnie à table, empoisonner mes repas par ses cris aériens sans fin contre les garçons, et gâter mes digestions au fumoir par ses confidences à tue-tête. Le sachant d'une curiosité insatiable, je ne m'étonnais pas outre mesure qu'un soir, après le dîner, il me posa 1000 questions sur mon ami Treadgold, sur ses talents de criminaliste, sur le bien fondé de sa réputation, sur la confiance qu'il méritait lui-même. Si, dans le moment, je n'y attachais pas d'importance, je fus suffisamment édifié, le lendemain matin, en apprenant qu'il était allé trouver Treadgold en se donnant pour un de mes amis. Ils sont peu nombreux, les clients de Messieurs Bowl, Treadgold et Flack, admis à pénétrer dans le sombre petit bureau situé tout au fond de leur magasin, par-delà les salons d'essayage. Là, sous le regard sourcier de l'ancêtre qui fonda la maison, son arrière-petit-fils en gouverne la fortune. L'image des vieux Josias, dont le chapeau blanc en poil de castor évoque la régence, a pour vis-à-vis, au-dessus de la cheminée, le portrait du grand-père Treadgold, conseiller de la cité de Londres, visage à favori, figure olympienne avec sa robe fourrée et sa chaîne, telle que l'a campé un artiste de l'Académie royale victorienne. Un daguerréotype en couleur perpétue sur le bureau, les traits de Daniel Flack, gendre du vieux Josias. Enfin, une mauvaise peinture du cousin Olivier Treadgold, créateur de la succursale de New York, vous contemple du haut de la muraille. Pour le reste, quelques spécimens mangés au mythe d'antiques uniformes militaires et une tunique rouge fanée à galons dédorés dans une vitrine, un plateau semé d'épingles, des bâtons de craie sur le bureau, vous rappellent que 5 jours de la semaine, de 10 heures du matin à 5 heures de l'après-midi et le samedi de 10 heures à 1, M. Treadgold, dont les facultés déductives commandent le respect de Scotland Yard, est aux yeux de tous un tailleur et rien d'autre. Tout frais encore de ses ablutions matinales, ses bonnes joues reluisantes de savon et de santé, les cheveux gris bien brossés, la moustache irréprochable, M. Treadgold, installé à son bureau, ouvrait son courrier du jour quand je fis mon entrée. Il retira du courrier une lettre qu'il me tendit. « De votre ami Marc Weber, Georges, me dit-il. Je connais de nom ce monsieur, il me semble. » « Qui est-ce au juste ?» J'ai parcouru la lettre. Elle était brève et allait droit au but. Marc Weber serait heureux de consulter M. Treadgold pour une affaire privée très urgente et du caractère le plus confidentiel. Un post-scriptum ajoutait « Je m'autorise du fait que je suis un ami de M. George Duckett, membre du club. » L'impudent personnage, membre de son club, moi, n'était-il pas plutôt membre du mien ?« C'est le professeur Weber, l'égyptologue, expliquai-je. » H.B. dodelina à la tête. « Naturellement, je me disais aussi que ce nom-là, un savant éminent, repris-je, et membre, il est vrai, de mon club. Mais son seul titre à se réclamer de mon amitié, c'est que, tout raseur impitoyable qu'il est, je ne lui ai pas encore cassé un porte-journal sur la tête. Il vient de me téléphoner, il arrive. Il paraît avoir un gros ennui. Voyez comme sa signature s'affaisse au bas de cette lettre. Que pourriez-vous m'apprendre de lui en attendant ? On le tient pour un égyptologue de premier ordre. Il a dirigé des fouilles durant des années et compte à son actif, je crois, un assez bon nombre de réussites. Sa maison de Rochampton passe pour contenir une des plus belles collections privées d'antiquités égyptiennes qu'il y ait en Angleterre. Les yeux de Treadgold cherchèrent la pendule. Il s'est annoncé pour 11 heures. L'aiguille marque 11 heures exactement. Ne bougez pas. Vous verrez avec moi ce qu'il désire. Weber est un monsieur dodu, joufflu, à lunettes d'or et qui n'a rien de ces gens enclins à douter de leur universelle notoriété. Il me salua le plus cordialement du monde. Visiblement, il arrivait tout prêt à se donner envers Treadgold des airs protecteurs. « La seule raison qui m'ait décidé à vous consulter, lui dit-il, sur un ton d'importance, après que je les eus présentés l'un à l'autre, c'est qu'il me répugne de m'adresser à l'autorité régulière. Il doit donc être compris, monsieur Treadgold, bien et clairement compris que j'ai foi en votre absolue discrétion. » Le professeur tourna vers moi un œil grisâtre. « Comment la vôtre, Duckett ?» Treadgold ne souffla mot. Négligemment, il poignardait son buvard du bout de son ouvre-lettre. Et Weber poursuivit. Comme vous savez, je possède une petite mais précieuse collection d'antiquités égyptiennes. Or, monsieur Treadgold, voici que dans les circonstances les plus mystérieuses, les plus angoissantes, une des pièces capitales de ma collection a disparu. Ashby leva vivement la tête. On y crut voir un vieux chien de chasse tombant en arrêt. Il s'agit, continua Weber, d'un ouchapti de vert bleu représentant Touéris, la déesse à tête d'hippopotame. Il semble qu'on l'ait clandestinement ôté de sa place et qu'on y a substitué une copie. Anouchapti, dit Treadgold, c'est, n'est-ce pas, une figurine? Une figurine, en effet, une statuette. Il y a 2 jours, mardi par conséquent, je réunissais chez moi quelques amis pour un dîner suivi d'un bridge. Ils devaient s'y rencontrer avec le professeur Larned, l'égyptologue américain, auteur du rapport si remarqué sur les graffitis des tombes nubiennes. Je l'avais beaucoup vu cet hiver. La collection occupe un local spécialement aménagé en musée dans ma maison de Roehampton. Après le dîner, j'en fis les honneurs à Larned et au reste de mes hôtes. Nous restâmes là 1 heure environ, puis nous passâmes au salon pour le bridge. J'ai l'habitude de travailler pour les matins au musée avec ma secrétaire. Je prépare effectivement un livre sur les scarabées de la 18e dynastie. Un hasard tout pur fit qu'hier matin j'allais chercher dans la vitrine où se trouve l'ouchapti un certain scarabée que je voulais décrire. Je m'aperçus immédiatement que l'ouchapti était une copie et non pas l'original. L'original est d'un grand prix, je suppose. Le professeur parut éclaté. Mais, mon cher monsieur, il est unique. Il vient de la reine Ti. La couleur, le dessin en font un spécimen sans égal, une chose exquise. Il n'a guère que 15 centimètres de haut, mais aucune autre pièce de ma collection ne m'a donné de satisfaction égale. Que peut-il valoir exactement? Le professeur leva les bras. Difficile à dire. Personnellement, je ne le céderais pas pour 2000 livres, et je l'assurais pour 1000. N'importe quel antiquaire le prendrait les yeux fermés à 300 ou 400. Votre collection est donc assurée? Pour 60 000 livres. Treadgold sifflota. Ce qui indiquerait, si je ne me trompe, que la figurine n'en était pas la pièce la plus précieuse. En valeur marchande, non. Quelques-uns des joyaux que je possède, par exemple, en ont une plus grande. Mais ce n'est pas la valeur marchande qui m'importe. Ce que je veux, c'est rentrer en possession de mon ouchapti. Sans cela, je n'aurais qu'à m'adresser à mes assureurs. Mais ils me diraient d'avertir la police, et je suis résolu à n'en rien faire. Je préférais donner au voleur la chance d'une restitution. Si pourtant vous ne découvriez pas le voleur? Weber poussa un gros soupir. Alors je me résignerais à sa perte. Il ne me plaisait pas que l'incident fût divulgué. Pourquoi? Parce que je deviendrais la risée de mes collègues. Voyez-vous, j'ai déjà fait quelque chose pour donner au voleur, comme je vous l'ai dit, une chance de restituer l'objet. Treadgold se cala dans son fauteuil. Ne pourriez-vous me raconter en détail toute l'affaire? Le professeur passa nerveusement ses doigts dans ses cheveux clairsemés. J'ai acquis l'ouchapti en Égypte, voilà 2 ans, chez un marchand de Louxor. Dans le Jebel, au-dessus de Louxor, vit un contrefacteur très adroit d'antiquités égyptiennes. Je profitai d'un moment de répit dans mes travaux pour lui faire prendre une copie de mon ouchapti. Cette copie, je l'avais placée dans mon musée sur une étagère au-dessus de mon bureau. Je n'eus rien de plus pressé en découvrant la substitution que d'aller voir l'étagère. La copie en avait disparu. Avez-vous quelque idée de la manière dont s'est opérée la substitution? Elle n'est que trop évidente. En présentant ma collection à Larned, je lui montrai la figurine. Sans doute lui enchantai-je les mérites, car il me demanda la permission de la voir de tout près. J'ouvris la vitrine. Vos vitrines sont-elles d'ordinaire fermées à clé? Toujours. Il n'y a d'ailleurs qu'une clé, non seulement pour toutes, mais aussi pour la salle. Elle ne me quitte jamais. Le professeur tira de sa poche une chaîne où pendait, parmi les clés d'un trousseau, une petite clé d'or. La figurine passa de main en main. Quand elle me revint, je la remis en place et refermai la vitrine. Et la vitrine, autant que vous pouvez le savoir, demeure fermée jusqu'à votre visite du lendemain matin. Absolument. De sorte que la veille, au lieu de vous rendre l'original pour que vous le renfermiez, c'était la copie qu'on vous avait remise. Je le suppose. J'ai peine à m'expliquer, pourtant, que je ne m'en sois pas avisé. Si parfaite, si fidèle que soit la copie, elle ne saurait, avec un peu d'attention, tromper un spécialiste. Vous rappelez-vous qui fut la dernière personne à vous remettre le chapti ? » Bépère hocha tristement la tête. « Non, hélas, nous étions là une foule, riant et bavardant. Soupçonneriez-vous quelqu'un en particulier ?» D'un air hagard, le professeur ébouriffa ses cheveux. « Oui et non. Nous étions neuf, mes invités, ma femme et moi. Deux tables de bridge, ma femme ne jouant pas. En somme, sans nous compter tous les deux, la réunion comprenait le professeur Larned, le colonel et Madame Allerton, qui sont nos voisins de campagne. Charles Cavander, l'antiquaire, une dame de ses amis, Madame Fleming, le jeune Bouliche, mon dessinateur lors de ma dernière expédition, et ma secrétaire, Mercer Day, qui habite chez nous. Tous de vieux amis, sans doute. Madame Fleming n'était jamais venue dans la maison. Cavander nous l'avait amenée. Quel genre de personne, cette dame ? Jolie et frivole, le type de la mondaine superficielle. Treadgold fronça les sourcils. Cependant, le professeur continuait. Elle vit séparée de son mari. Cavander songe, paraît-il, à l'épouser. Je dois vous dire que je ne connais pas très bien Cavander. Il me consulte parfois sur des questions de ma compétence. Serait-il capable d'apprécier le mérite de votre Ushapti ? Weber eut pour mon ami un regard d'admiration. Oh, très bien ! Mais Bouliche aussi en serait capable, et même plus encore que Cramander. Il travaille l'égyptologie depuis Oxford. Voilà donc trois de vos invités en mesure de porter, si je puis dire, un intérêt professionnel à votre statuette. Cramander, Bouliche et naturellement le professeur Larned. Weber parut choqué. Laissons Larned de côté. C'est un très grand savant, un esprit très élevé. Notez par surcroît qu'il jouit d'une belle fortune. Et votre secrétaire, Miss Day, elle est aussi bonne égyptologue que n'importe qui d'entre nous. Elle s'occupe avec moi depuis 6 ans et m'accompagne dans toutes mes expéditions. Ceci ajoute un 4e numéro à votre liste. Pensif, Treadgold se mordit le pouce. Combien de personnes, en dehors de vous, connaissaient la copie ? Le professeur sursauta. Sur mon âme, je n'ai pas réfléchi un instant. Question très maligne, cher monsieur, et à laquelle il ne m'est pas facile de répondre. En dehors de moi, Bouliche et Mercer Day étaient seuls à la connaître. Ils se trouvaient avec moi à Luxor quand je commandais la copie. Et j'ajoute que Bouliche aida Miss Day à l'empaqueter avec le reste de mes acquisitions lors de notre départ pour Londres. Il semblerait donc que nos soupçons n'eussent avisé que l'un des deux. « C'est la conclusion où je suis arrivé, » pontifia Weber. D'une part, Miss Day circule à toute heure dans la maison. Elle avait plus d'occasions qu'il n'en faut pour un coup de ce genre. D'autre part, elle et Bouliche s'entendent comme larrons en foire et j'ai idée que le jeune homme a des embarras d'argent. Entre nous, on lui a téléphoné l'autre jour d'une banque alors que j'étais là. Et ce que j'ai par hasard entendu m'a donné lieu de croire qu'on le pressait pour le règlement d'un billet venu à échéance. Bouliche a-t-il affaire, lui aussi, dans le musée ? Pas régulièrement. Quand je suis en Angleterre, j'use de lui pour des recherches occasionnelles au British Museum ou à la bibliothèque bodléienne. Et il vient souvent me voir. Il a, si je suis bien renseigné, un revenu de quelques centaines de livres. Mais j'imagine que même en comptant ce qu'il gagne avec moi, il vit bien au-dessus de ses moyens. Une tenue toujours élégante, une hotte de sport... Et le professeur fit une pause avant de conclure aigrement. Un bon dessinateur, mais infatué de lui-même. Or, mon ami et moi, avez-vous instruit quelqu'un de cette affaire ? Personne. J'espérais combiner un moyen d'amener le voleur à remettre l'Ushabdi en place, dans la crainte que sa supercherie ne fût remarquée. Treadgold fit un geste approbatif. Ce serait dans la circonstance la conduite la plus sage. Vous n'avez rien dit non plus à votre secrétaire ? Non. Étant donné mon attention, je n'avais envers Miss Day, comme envers tout le monde, qu'à me taire. Miss Day n'était pas dans le musée quand je découvris la substitution. À moins qu'elle n'en soit l'auteur, il est fort improbable qu'elle y ait pris garde. J'ai laissé la copie où on l'avait mise dans la vitrine, et du dehors vous la prendriez pour l'Ushapti véritable. Avez-vous gardé le secret jusqu'envers votre femme ? Le visage rondelet du professeur revêtit une expression de mépris. « En principe, je ne parle de rien, ma femme. Avez-vous examiné la copie ? Je puis n'être pas criminaliste, voire criminaliste amateur, Monsieur Treadgold, » fit le professeur avec un sourire condescendant. « Mais la raison me dit qu'il y a de grandes chances pour qu'on relève, sur la fausse statuette, les empreintes digitales du voleur, en même temps, bien entendu, que les miennes. » il prit dans sa poche une feuille de papier qu'il posa sur le bureau. « Vous pensez à tout ?» fit Redgold, avec une certaine sécheresse. « Pourrions-nous, mon ami Duckett et moi, aller voir votre musée ce soir, par exemple, vers 6h30 ? Le plus tôt sera le mieux. « Je vous accorde, George, » me dit Redgold, quand le professeur nous eut quittés, « que cet homme-là est des plus désagréables. Il se méfie de sa secrétaire, méprise sa femme, et tend l'oreille aux conversations des gens. Ce doit être un plaisir que de le voler. » Mon ami consulta sa montre. « Je vais profiter de l'heure du déjeuner pour faire un tour au British Museum. »« Vraiment ?» lui répondis-je en riant. « Vous figurez-vous qu'un tas de momies inspectées au pas de course vous éclaireront sur le vol de la figurine ?» Et lui, avec un sourire tranquille. « Le crime est une guerre de l'ignorance contre le savoir. Vous battez le criminel si vous êtes mieux informé que lui. J'aime à me sentir bien armé avant de m'engager sur un terrain peu familier. » N'est-il pas écrit en outre que le désir de la connaissance, comme la soif des richesses, s'accroît à mesure qu'on le satisfait ? S'il y a une chose que souhaite HB quand il part en chasse, c'est d'avoir auprès de lui un auditeur complaisant. « Pour peu que vous y teniez, lui dis-je, je vous accompagnerai ce soir à Rochampton. » Ainsi fut-il convenu. Le musée de Karnak House, pour lui donner le nom que portait la résidence du professeur, formait une vaste salle que garnissaient partout des vases de verre et qu'imprégnait le faible arôme si particulier des momies. Weber ouvrit une vitrine et nous montra, au milieu d'autres antiquités, une toute petite statuette couleur bleue de Pan, effigie d'une déesse à tête d'hippopotame. Elle me fit l'effet d'un objet assez hideux. Mais je ne suis pas égyptologue. Puis il nous désigna une étagère placée contre un des murs, plus loin, au-dessus du bureau, et qui servait primitivement de support à la copie. Redgold est direct dans ses méthodes. Il prit le chapti, ou plutôt sa réplique, dans un mouchoir de soie, alla le déposer sur le bureau où se trouvait déjà son petit bagage pour empreinte digitale, et déclara tout net au professeur que nous ne le retenions pas. Weber se retira de mauvais gré, en nous disant toutefois que lorsque nous aurions fini, il serait heureux de nous offrir un verre de sherry dans son repère. Redgold apporta dans son travail une minutieuse lenteur. Aussi me fatiguai-je de le voir manipuler son soufflet et sa poudre de plombagine. Il tournait autour des vitrines quand la porte du musée s'ouvrit. Une femme s'avança d'un pas hésitant. Elle avait des cheveux noirs, l'air et le regard timide. Arrivée près du bureau, elle dit, s'adressant à mon compagnon et retenant son souffle, « Monsieur Redgold, je puis obtenir que la figurine de Touéris me soit remise. » Pour vous, si vous consentez à ne point poser de questions et à ne point dire au professeur comment elle était recouvrée. Je suis Mercia Day, la secrétaire. Vous me connaissez ? Demanda-t-il. Monsieur Bullish m'a parlé de votre rôle dans l'affaire des diamants de Carsalton. Lady Carsalton et sa tante. HB abaissa sur la jeune fille l'étouffe de ses sourcils. Vous saviez donc que le Chapti avait disparu ?
Oui.
Le professeur peut se considérer comme un grand diplomate. Mais il n'a jamais un sujet de préoccupation sans que je m'en aperçoive. Depuis hier, il ne cesse de me questionner sur ses invités de mardi, sur le moment où le Chapti passa de main en main, et par-dessus le marché, sur les affaires personnelles de M. Bullish. M. Bullish est de vos amis ? M. Bullish est un homme fort aimable, et je le vois beaucoup. La secrétaire marqua une pause. Mais revenons à le Chapti, reprit-elle. Il n'y a pas de prétexte que le professeur n'invente depuis hier pour me tenir éloigné du musée, bien que j'aie à terminer un travail urgent. Cet après-midi pourtant, peu avant votre arrivée, je l'ai surpris devant la vitrine où est normalement exposée la figurine de la déesse. La vitrine était ouverte, il examinait le chapitre à la loupe, et je vis d'un coup d'œil non seulement que ce n'était pas l'original, mais que la copie avait disparu de l'étagère. Et quand on vous annonça, je ne pus m'empêcher d'écouter à la porte. Pendant qu'il vous parlait des empreintes digitales. Redgold posa sur Mercy Day un regard sévère. C'était une calme jeune fille, bien en possession d'elle-même et dont le visage, sans atteindre la beauté franche, dénotait un caractère. Vous me feriez forte d'obtenir le retour de le Chapti, lui demanda-t-il. Elle répondit oui d'un signe. Combien de temps vous faudra-t-il pour cela? Donnez-moi jusqu'à demain matin. Redgold prit dans son portefeuille une carte de visite. « Très bien. Téléphonez-moi, demain avant midi, à ce numéro. » Elle allait sortir quand il la rappela. « Étiez-vous du nombre des dames qui portaient des gants à la réception de mardi ? Elle hocha la tête. Non. Merci, c'est tout. Avec autant de déférence qu'il en eût montré à un client, il reconduisit la secrétaire jusqu'à la porte.
Rien de tel qu'une réputation, dis-je à mon ami sur un ton de blague. Elle n'a eu qu'à connaître votre nom pour s'empresser d'avouer.
Il rangeait à ce moment son attirail.
Ainsi vous croyez que c'est elle qui a subtilisé la déesse hippopotame?
Pas vous? Il soupira.
Et c'est là, Loïc.
Oui, je crois que c'est elle. Mais je vois mal pourquoi elle a couru le risque et s'est donné la peine d'enlever précisément cette figurine alors que... Il s'interrompit et reprit.
Concevez-vous qu'il y a dans cette salle des scarabées, pas plus longs qu'une petite boîte d'allumettes, qui ont coûté à notre ami Weber jusqu'à 5 et 6 000 livres. On me le disait tantôt au British Museum.
C'est sans doute l'existence de la copie qui aura inspiré à Miss Day l'idée de voler l'original.
Pauvre raison, si raison il y a, George.
Nous allions rejoindre le professeur, quand vint à notre rencontre dans le hall une femme mince et pâle.
Je suis Madame Weber, nous annonça-t-elle.
Le professeur doit dîner dehors de bonne heure. Il est monté s'habiller dans sa chambre. Vous plairait-il de l'attendre au salon?
Au salon, nous retrouvâmes Mercia Day. Il y avait sur le piano un carafon de sherry. Elle remplit pour nous 2 verres.
Je présume, Madame Weber, fis-je pour entrer en propos, que vous partagez la passion de votre mari pour l'égyptologie?
Certes non, intervint Miss Day. Madame Weber nous considère, le professeur et moi, comme des violateurs de sépulcres.
Madame Weber sourit d'un air pensif.
Je confesse, dit-elle, que l'Égypte vivante a pour moi plus intérêt que l'Égypte morte.
Le professeur, reprit fermement Miss Day, insiste chaque fois pour que Madame Weber l'accompagne en Égypte. Mais tandis que nous creusons le sol du Jebel, elle demeure au Caire, où elle siège dans d'innombrables comités de bienfaisance, organisés par les dames égyptiennes.
Idée admirable, déclara chaleureusement Threadgold.
Plût à Dieu, dit Madame Weber, que mon mari pense à lui-même.
Il n'aime pas les Égyptiens. Il s'irrite de ce que, durant mon séjour au Caire, je passe mes jours dans le quartier des palais réservés aux femmes, ou bien encore dans les taudis de la ville arabe.
Mais pardonnez-moi, je ne sais pourquoi je vous importe une de ces détails.
Ce que Madame Weber ne savait pas, j'aurais pu le lui dire.
Mon vieux HB a un charme de manière qui fait, je l'ai maintes fois observé, que les gens les plus invraisemblables se sentent d'emblée en confiance avec lui.
Il ne donna pas suite à la réflexion de Madame Weber. Au contraire, comme pour changer de sujet, il prit sur le piano une grande photographie qu'il examina. C'était le portrait en buste d'une jeune femme, une égyptienne, autant que le révélait le voile de gaze qui dissimulait le bas du visage. Elle portait une robe noire décolletée. À son cou, légèrement bistré, s'enroulaient plusieurs rangs de perles magnifiques. Ses yeux, sous la transparence du tissu, brillaient d'un splendide éclat noir. La photographie venait de chez un photographe bien connu de Mayfair à Londres.
La délicieuse figure, dit Threadgold.
Madame Weber lui reprit vivement la photographie.
Mieux vaut que mon mari ne voie pas cela.
Il n'approuve pas mes relations d'amitié avec les Égyptiennes.
Mais c'est la princesse Mourad Ali,
s'écria la secrétaire en regardant par-dessus l'épaule de Madame Weber.
Vous m'aviez dit, je crois, qu'elle était malade au Caire. Et cette photo était faite à Londres.
La princesse s'y trouve en effet avec son mari.
Et sur cette brève réponse, Madame Weber enfouit la photographie dans un tiroir.
Elle me l'a donnée aujourd'hui même. N'en dites rien, je vous prie, à mon mari.
La voix sonore du professeur retentit soudain à la porte.
Désolé de vous quitter ainsi, Threadgold, mais je dîne dehors.
Il n'eut pour sa femme ni un regard, ni un signe d'attention. Et quand elle fut ressortie, emmenant la secrétaire,
« Eh bien, » mugit-il, « ces empreintes digitales. »« Je vous en rendrai compte demain, »
lui répondit mon ami.
« Peut-être alors, aurai-je pour vous des nouvelles ?»«
Si j'obtiens qu'on me remette l'ouchapti, êtes-vous prêt à ne poser aucune question ?»
Weber sourcilla. « Cela dépend. »«
Il se peut qu'on m'en fasse une condition formelle. » »«
J'ai invité HB à dîner avec moi au club. »
« Une drôle d'affaire, Georges, » me dit-il d'un air enfoigné, tandis que nous roulions vers Pall Mall.
« Bigrement drôle. J'ai la tête comme un écheveau tout emmêlé. Je n'y sens que perplexité et désordre. »
Il grommela.
« On prétend que la nuit porte conseil. Voyons ce que le jour nous apportera. »
Mais Miss Day prévint le jour. Je la trouvais chez HB lorsqu'après le dîner, j'accompagnais chez lui mon ami.
« Je me suis trop pressé de parler, » lui dit-elle avec émotion. Je ne puis en définitive vous être d'aucun secours. » Et le considérant avec désespoir, « Vous me soupçonnez, n'est-ce pas ?»
Weber lui aussi me soupçonne.
Treadgold haussa les épaules.
« Je comprends mal pourquoi vous n'auriez pas pris un objet de plus grande valeur,
un escarabée par exemple, en supposant que vous eussiez besoin d'argent. » Ici une pause délibérée, puis « Pour un ami. »
Les joues de la jeune fille s'embrasèrent.
« Vous savez l'histoire de ce billet à ordre ?»«
Moins que je n'aimerais le savoir de vous, ma chère. »«
Excusez-moi une minute. » Elle partit comme une flèche, et quelques instants plus tard, elle s'en revenait, traînant malgré lui par la main un jeune homme de large carrure.
« Voici Michel Boulish, » annonça-t-elle, et elle ajouta, parlant au jeune homme, « Croyez-moi, soulagez votre conscience, Mike. »«
C'est tantôt seulement, » dit Boulish, « que j'ai eu connaissance de cette affaire par Mercia. Mais jamais elle n'a touché la figurine, non plus que moi du reste. Et quand vous serez au courant des choses, vous verrez qu'elles n'en vont que plus mal pour nous. Il y a quelques mois, j'avalisais un billet à ordre pour un de mes amis.
« Pour George Camander, »
spécifia la jeune fille. Treadgold se dressa brusquement.
« Le Camander qui était mardi à la réception du professeur ?»
Boulish, les lèvres serrées, fit oui de la tête.
« Il est fou de Madame Fleming, et Dieu sait ce qu'elle lui coûte.
« Est-il bon juge en matière d'art égyptien ?»
Le jeune homme roulait des yeux effarés.
« Autant et plus que personne. »
« Tout de même, un vieil ami comme lui n'aurait pas dû se permettre envers moi un tour semblable. Il est absent de Londres ce soir, mais mon premier soin demain matin... »
Treadgold arrêta.
« Vous n'avez rien d'autre à faire, jeune homme, »
prononça-t-il, « que de garder ceci pour vous. Et je le dis pour vous aussi, Miss Day. Que s'est-il passé pour ce billet à ordre ?»«
Ma tante, Lady Carl Salton, que vous connaissez comme moi, sauf erreur, a réglé le billet. Charles la remboursera par acompte. »
Chaque mot que dit ce jeune homme ne fait qu'embrouiller un peu plus la situation, déplora Treadgold. Au nom du ciel, George, emmenez-le dans la salle à manger, donnez-lui quelque chose à boire. Moi, pendant ce temps, j'échangerai deux mots avec Miss Day. De ce que furent ces mots, rien ne transpira, car, après le départ de Boulish et de Mercia Day, Treadgold s'enferma dans un silence impénétrable. Les devoirs de ma profession m'appelèrent le lendemain à Manchester. Deux jours plus tard, rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre de Treadgold m'informant qu'on m'attendait le soir même pour dîner à Carnac House. Le dîner était pour 8 heures, nous nous y rencontrerions. Aucun signe de Treadgold quand on m'introduisit au salon. De Miss Day, pas davantage. Mais un frémissement me parcourut au moment où Weber me présenta ses autres invités. Ils étaient tous les mêmes que le soir où a disparu le chapetis. Il y avait donc parmi eux le voleur. Et je leur donnai un coup d'œil rapide tandis que le cocktail circulait à la ronde.
Les Allerton. Un couple de placides banlieusards, on pouvait les exclure sans peine.
Larned, l'égyptologue américain, grisonnant et replet, avait l'air d'un homme bien inoffensif, cependant qu'il s'empressait auprès de Madame Weber. Mais je sais à quelles extrémités peut aller la manie de la collection chez l'homme le plus respectable. Cavander et Madame Fleming me firent une moins bonne impression. Lui, trop bien habillé, trop sûr de lui-même, me parut un poseur, vaguement doublé peut-être d'un aventurier. Elle, avec sa chevelure d'un blond rutilant et sa façon d'étaler la richesse de sa toilette, lui était sans conteste parfaitement assortie. Je ne pus ne pas remarquer la nervosité du jeune Boulish, tout occupé à surveiller la porte. Lorsqu'enfin arriva Treadgold accompagné de Mercia Day, je devinai que la péripétie était proche. Le succès a toujours un effet d'exaltation sur mon ami. Il y avait dans ses yeux bleus un pétillement de mauvais augure, dans sa personne débonnaire un hérissement d'impatience qui me présageait du nouveau. Au dîner, j'eus une surprise. Madame Fleming, assise à ma droite, me dit tout de go. « Ainsi, votre ami le tailleur se mêle d'égyptologie. » Je garde de me compromettre. « Mon Dieu, » répondis-je en riant, « il collectionne les timbres. Pourquoi pas, aussi bien, les antiquités. » On parle d'une offre qu'il ferait à Mark Weber pour sa collection. Les experts viendraient demain l'évaluer. Qui dit cela ? Charles Camander a recueilli les bruits je ne sais où. Nous prîmes le café à table. Après, nous passâmes tous au musée. Il y avait en apparence quelque chose de fondé dans ce que m'avait dit Madame Fleming, car Weber et Larned, s'emparant de HB, le menèrent de vitrine en vitrine, tandis que nous traînions à la suite. Ils avaient commencé par le côté de la salle où se trouvait la porte. La vitrine contenant l'ouchabdi de Théoris était contre le mur opposé, et je pouvais voir la petite statuette bleue profilée dans sa cage de verre, sa tête hideuse. Qu'arriverait-il quand ils en seraient là? Un spécialiste comme Larned ne pouvait, de si près, manquer de déceler la fraude. Weber parlait sans arrêt. Les vitrines n'étaient pas fermées à clé. Je présume qu'on avait songé d'avance à faciliter la tâche de Treadgold. Weber les ouvrait l'une après l'autre pour en retirer et lui présenter, avec d'abondants commentaires, un vase ou une figurine, un scarabée ou une amulette. Et tout d'un coup, la lumière s'éteignit, la salle fut plongée dans les ténèbres. J'entendis un cri aigu que j'attribuais à Madame Fleming, puis la voix grondante de Weber commandant à Miss Day d'aller chercher des bougies. Bientôt la lumière reparut à l'état de petites lueurs tremblotantes. Deux d'entre nous avaient allumé leur briquet. Weber, une allumette à la main, se dirigea à grands pas vers la porte. Il n'avait pas eu le temps de l'atteindre que la lumière nous était rendue, ce qui produisit un soulagement général. Voilà bien la première fois qu'il arrive pareille chose. Il a dû y avoir une panne à la station émettrice. Il tenait entre les doigts un scarabée qu'il replaça dans la vitrine. « Allons voir les bijoux maintenant, » dit-il à Treadgold. Ashby racla de la gorge. « Je préférerais, » fit-il en ponctuant les syllabes, « voir ce charmant ouchapti de Tuéris dont vous m'avez parlé. » Weber le regarda comme si d'abord il ne comprenait pas. Puis il traversa vivement la salle, ouvrit la vitrine et en ôta la figurine. « Ah ça, mais... » bredouilla-t-il. « Une pièce ravissante, » dit le professeur Larned, clignotant derrière ses lunettes. « Mais, mon cher, » s'écria-t-il, « vous vous êtes coupé. » Les doigts de Weber étaient tachés de rouge. Il tâta la figurine, replongea la main dans la vitrine et d'une voix qui trahissait la stupeur. « On a répandu sur le velours de l'encre une substance rouge. » Se disant, il se tourna vers Larned. « Voulez-vous m'excuser un moment ? J'aurai quelque chose à montrer à M. Treadgold dans mon cabinet. » Treadgold et moi le suivîmes. « Alors, vous avez réussi, on vous l'a rendu ? » s'écria-t-il quand la porte se fut refermée sur nous. Treadgold inclina la tête. « Et c'est vous, reprit Weber, qui avez remis l'objet en place quand la lumière s'est éteinte ?» Nouveau signe affirmatif et presque imperceptible de HB. « Permettez, dit-il, que je pousse jusqu'au bout ma petite comédie. Vous allez rejoindre vos invités. Moi, j'ai besoin de causer à part rapidement avec George Duckett. » « Mais voyons, » commença le professeur. Treadgold lui ferma la bouche. « Pas de question, c'est convenu. Nous vous retrouvons dans une minute. » À ces mots, il ouvrit la porte, poussa le professeur dans le musée et, m'empoignant par le bras, me fit monter avec lui quatre à quatre l'escalier menant au salon. Madame Weber en sortait. À notre vue, elle recula d'un pas et vivement cacha ses mains derrière son dos. « Montrez vos mains, s'il vous plaît, madame, » lui lança Treadgold. « Que signifie ?» balbutia-t-elle. « Pourquoi montrerai-je mes mains ?»« Vous avez le choix, ou de me les montrer, ou de les montrer à votre mari, » lui répliqua Treadgold d'un ton glacial. Elle resta un moment sans bouger. Enfin, lentement, elle ramena de derrière son dos sa main droite. Les doigts en étaient comme ceux de son mari, comme ceux de Treadgold, tachés de rouge. « Ainsi, » lui demanda HB, « vous avez pu reprendre l'ouchapti à votre amie, la princesse Mourad Ali ?»« Vous le savez ?» fit-elle d'une voix étranglée. « J'avais entrepris de le savoir. Je savais, pour m'être renseigné au British Museum, que Théoris, la déesse à tête d'hippopotame, est la protectrice des femmes en couche. Et la princesse, n'est-il pas vrai, a mis au monde avant-hier un héritier ?» Après 8 ans d'un mariage stérile, c'était pour elle un événement d'une telle importance que de donner un fils à son époux. Elle sut obtenir de celui-ci qu'il l'amenait à Londres, afin que l'enfant pût naître dans les conditions les plus favorables. Les Égyptiens ont une foi aveugle dans ce genre de fétiche, et l'ouchapti était en somme l'amulette d'une grande reine. La princesse en connaissait le possesseur, et elle me demanda de le lui prêter un jour ou deux, jusqu'après la naissance de l'enfant. J'ai été convaincu que l'absence de la statuette ne serait pas remarquée, d'autant que j'avais mis la copie à la place. Assurément, j'aurais pu prendre la copie plutôt que l'original, mais il me semblait que ce serait duper la pauvre femme. Enfin, le bébé se fit un peu attendre et je n'ai pu recouvrir le chapitre qu'hier. Et vous n'avez pas eu la chance de pouvoir, cette fois, comme la première, emprunter la clé de la vitrine ? Madame Weber eut un mouvement de recul. Comment avez-vous découvert cela ? La première fois, n'est-ce pas ? Vous aviez pris la clé le mardi soir, après le départ de vos invités et pendant le sommeil de votre mari. « Mon mari saurait-il ? » et les yeux de Madame Weber s'écarquillaient d'épouvante. « Rassurez-vous, votre mari ne sait rien et n'a besoin de rien savoir. » Les seules empreintes digitales marquées sur la copie sont les siennes, preuve que le voleur portait des gants. Je m'étais rappelé la nécessité de me prévenir contre les empreintes. Personne ne portait des gants à la réception. Il était donc évident pour moi que la substitution s'était faite non pas quand vous étiez tous au musée, mais plus tard dans la nuit. Qu'est-ce qui vous a décidé à remettre le chapitre en place tout à l'heure? Mercedes m'avait dit, il y a 2 jours, que vous alliez envoyer demain des experts pour en estimer la valeur. Et je compris que la fraude serait fatalement découverte. Depuis hier, je portais le chapitre sur moi, n'attendant qu'un heureux hasard pour le remettre en place. J'étais tout près de la vitrine ce soir quand la lumière s'éteignit, ce qui me sembla une faveur du ciel. Treadgold se mit à rire. Nulle intervention céleste là-dedans, Madame Weber. J'étais quasi certain de ce qu'était devenu le chapitre. Je m'arrangeais avec Miss Day pour répandre le bruit ridicule de mes visées sur la collection et par là, je vous en demande pardon, vous forcez la main. Un peu d'encre rouge sur le velours intérieur de la vitrine a fait le reste. C'est donc Miss Day qui avait éteint la lumière, m'écriai-je. Treadgold rit de nouveau. Le commutateur est contre la porte. J'attendis que le groupe fût rassemblé autour de nous, puis je fis un signe à Miss Day. Il revint à Madame Weber. Votre secret n'a rien à craindre de moi, madame. Un petit nettoyage de la pierre ponce effacera ces taches de vos doigts. Et puisse la bénédiction de Théoris descendre sur le petit prince et sa mère. Treadgold glissa son bras sous le mien. « Venez, Georges, il est temps que nous redescendions au musée. » Ainsi s'achève la figurine égyptienne par Valentin Williams.